Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral pour cette dernière émission avec des invités. On retrouve Olivier Villès, directeur du SPIP 0405. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Julien Vimy, vous êtes conseiller du SPIP 04.
Bonjour.
Bonjour. Et puis notre directeur, François Malabave, bonjour.
Bonjour Odile, bonjour à tous. Alors le SPIP, c'est le service pénitentiaire d'insertion
et de probation, bien sûr. Alors aujourd'hui, c'est la dernière, c'est le petit plus, puisque on a effectué les émissions prévues. On fera un petit tour de ces quatre émissions qui se sont déroulées tous ces jeudis. Et puis, on va écouter des interviews, notamment le bâtonnier Pascal Antique, qu'on pourra écouter. Ensuite, on écoutera le policier qui est proche de la retraite, Philippe Lacroix. Et on terminera avec le surveillant de la maison d'arrêt de Digne, Olivier, 30 ans de service et toujours passionné par son métier. Et donc, on fera un peu... Peut-être le point après sur ces quatre émissions. Je vous propose qu'on commence par écouter le bâtonnier Pascal Antique.
Très volontiers.
Voilà, alors c'est parti. Pascal Antique, quel est le rôle d'un avocat ?
Le rôle d'un avocat, c'est de défendre son client, quel qu'il soit. Alors il y a l'avocat qui va défendre son client dans une procédure de divorce, qui va défendre son client ou sa cliente dans une procédure de bornage, qui va défendre son client ou sa cliente dans une procédure de responsabilité, dans un accident de la circulation, dans une conduite en état d'ivresse, dans un meurtre, dans un assassinat, dans un viol, dans un inceste, ou s'il est victime de toutes ces atrocités. Le rôle de l'avocat, c'est de défendre les intérêts de son client, quel que soit le client qu'il a à défendre et quel que soit l'objet dont il doit être le porteur judiciaire et juridique de l'affaire que son client lui confie et qu'il accepte de traiter.
Il y a aussi des avocats commis d'office. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, l'avocat commis d'office est un avocat qui est désigné par le bâtonnier. Ça, c'est en matière pénale, surtout, lorsque un prévenu doit passer devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises, si c'est un accusé, et qu'il n'a pas d'avocat particulier. Il demande au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office. Et le bâtonnier, en fonction de l'affaire, désigne un avocat pour représenter, pour défendre le client qui demande la commission d'office. Voilà. Alors, c'est pas forcément l'avocat gratuit, la commission d'office. C'est-à-dire que celui qui ne connaît pas l'avocat, mais qui a les moyens de payer son avocat, le bâtonnier va lui désigner un avocat et puis il s'arrangera avec son client pour se faire régler ses honoraires. En revanche, si le client n'a pas d'argent, en tout cas s'il remplit les critères pour obtenir l'aide juridictionnelle partielle ou totale, à partir de cela, l'avocat percevra l'indemnité due à ce titre.
Quels sont les rapports entre les avocats et les magistrats ?
Ah, il faut qu'ils soient bons. Chacun dans son rôle, chacun avec ses mots, chacun avec sa bibliothèque. Il faut qu'il soit empreint de courtoisie, de respect. Nous faisons partie, les uns et les autres, d'une chaîne judiciaire. Et j'allais dire, les rapports entre magistrats et les avocats doivent être respectueux. Chacun ayant le respect du rôle de l'autre. Et à partir de là, les choses marchent et fonctionnent bien dans l'intérêt de l'institution judiciaire. Alors après, bien évidemment, il y a toujours des personnalités ou il y a toujours des magistrats avec qui on a plus ou moins de feeling, mais ça, c'est dans la vie. Mais on doit avoir une relation respectueuse et empreinte de neutralité également. On n'est pas question d'être copain-copain, puisque c'est pas possible, ça. Moi, j'ai des amis magistrats, mais en tout cas, ils sont pas magistrats ici. Voilà. Mais encore une fois, le respect dû à la fonction de l'autre. Le magistrat n'est pas plus ou moins que l'avocat, et l'avocat n'est pas plus ou moins que le magistrat. Le magistrat, le seul pouvoir qu'il a, et non pas le moindre, c'est celui qui va trancher. C'est celui qui va décider. Nous, avocats, on n'a aucun pouvoir. On n'a qu'un pouvoir, et comme le disait mon éminent confrère, maître Masella Di Bosco, nous n'avons aucun pouvoir, et c'est ce qui fait notre force.
Quelles sont les principales affaires que vous traitez ?
Écoutez, nous, ici, dans le barreau des Alpes-de-Haute-Provence, nous sommes une cinquantaine d'avocats regroupés en quelques cabinets. Il n'y a pas 50 cabinets, mais il y a 50 avocats. Le barreau s'est beaucoup renouvelé ces dernières années. Il y a beaucoup de jeunes. Nous traitons des affaires qui vont du divorce jusqu'à la responsabilité en matière de construction, aux procédures collectives. Tout l'éventail, effectivement, de ce qu'on peut trouver d'une manière générale dans le code civil, dans le code commerce, dans le code pénal. dans le code des affaires de sécurité sociale. On traite beaucoup moins d'affaires relatives à la propriété industrielle et commerciale. Hein. En tout cas, moi, je n'en ai jamais traité. On ne traite pas des affaires de droit maritime, parce que c'est comme ça. Hein. La Durance n'est pas un fleuve. En tout cas, elle ne l'est plus. Toutes sortes d'affaires qui peuvent être, d'une manière générale, des avocats généralistes, avec des activités dominantes par cabinet. D'une manière générale, on peut faire de tout, si on est compétent pour faire de tout.
Alors justement, un avocat, a priori, doit défendre tout un chacun. On ne choisit pas forcément les personnes qu'on doit défendre. Comment ça se passe si on doit défendre un tueur en série ou un criminel de guerre? Qu'est-ce qui se passe pour l'avocat confronté à ce genre de défense?
Écoutez, moi, j'ai jamais été confronté à la défense d'un criminel de guerre, ni d'un tueur en série. Je crois que, mais ça se pose pour n'importe quel type de défense. Alors, là, on est sur le volet beaucoup pénal. Là, on n'est pas sur le volet civil, on est sur le volet pénal. Je crois que ce qu'il faut bien faire admettre à nos auditeurs, c'est qu'un avocat, ce n'est pas quelqu'un qui va justifier ou excuser le crime. Ce n'est pas parce qu'on plaide pour un criminel qu'on est pour le crime. On va simplement expliquer, si on accepte la mission, un avocat peut toujours refuser. Il peut toujours refuser de défendre dans n'importe quel dossier, et bien entendu, a fortiori, dans un dossier pénal, criminel. À partir du moment où il accepte le dossier, eh bien, il est le porte-voix, le porte-parole pour expliquer, soit au tribunal, soit à la cour d'assises, les raisons qui ont poussé l'individu à commettre un crime, à commettre un viol, à commettre... Enfin, le viol est un crime au sens juridique du terme. Mais, et pour cela, il a un dossier. Il a un dossier de personnalité, il a un dossier de psychiatrie, un dossier psychologique, il a l'analyse des faits également. Parce que vous pouvez très bien défendre celui qui est désigné comme criminel, mais qui est parfaitement innocent. Ça m'est arrivé, moi, de plaider l'acquittement ou la relaxe, et parfois de les obtenir. Donc l'avocat, à partir du moment où il accepte le dossier, il défend son client avec toute sa compétence, avec toute sa hargne, avec ses seules armes, c'est sa compétence, ses seules armes, c'est ses tripes, ses seules armes, c'est sa parole, et c'est le dossier. Ni plus ni moins, on ne peut rien inventer, hein. Tout est dans le dossier, donc à partir de là, il n'y a pas de questions à se poser. Mais encore une fois, à partir du moment où on accepte de défendre, il faut aller jusqu'au bout. Alors il peut arriver qu'en cours de route, il y ait un désaccord entre l'avocat et son client sur le système de défense ou sur la manière de concevoir un dossier. À ce moment-là, l'avocat a l'impératif, la nécessité de se retirer, de dire « moi je ne peux pas vous suivre dans cette affaire-là ». Mais ça, ça se règle entre le client et son avocat dans le secret soit du parloir de la maison d'arrêt, soit de son cabinet, c'est le secret professionnel.
Quels sont les talents et les compétences qu'il faut avoir pour être un bon avocat?
Il faut être humble parce que c'est un métier très difficile. Je crois que c'est l'humilité, c'est le fait d'accepter de gagner, de perdre. Parce que vous allez peut-être gagner des dossiers que vous pensiez pas bons et puis perdre des dossiers que vous pensiez très bons. Donc il faut être humble et il faut être courageux. Et puis, pugnace. Et ne jamais perdre de vue que la justice n'est qu'une justice rendue par les hommes. Hein. J'espère qu'elle ne sera jamais rendue par des machines. Bien qu'en ce moment, ce qu'on nous propose, on n'en est pas loin sur certains aspects. Il ne faut pas que la justice devienne inhumaine. Il faut toujours qu'il y ait ce débat judiciaire. En ce moment, il y a beaucoup de réformes qui se préparent et on essaye de déshumaniser l'œuvre de justice, ce qu'on peut comprendre pour certains dossiers, mais et quoique. Je crois que le rapport entre, tout à l'heure, vous me parliez des rapports entre le magistrat et l'avocat, c'est important parce que c'est un débat. Et en ce moment, la tentation du pouvoir exécutif, c'est de confisquer ce débat. Mais on ne confisque pas ce débat aux magistrats ni aux avocats, hein, on le confisque aux justiciables. Oui, l'humilité, la pugnacité, le courage. C'est un métier en dents de scie. On peut avoir des périodes de grande joie, de grande satisfaction, et puis des périodes très, très difficiles. Pour tout un tas de raisons, parce que c'est une profession libérale, parce qu'on a les aléas économiques, et puis on a les aléas de gagner, de perdre, et chaque fois se remettre en question. L'avocat qui ne se remet pas en question, c'est un mauvais avocat, parce qu'il n'avancera pas, il sera ne jamais avoir de certitude, sauf les certitudes qui sont écrite et inscrite dans le code civil ou dans le code pénal, hein, ou dans le code de commerce ou dans le code de la consommation, parce que ça, c'est la loi. Donc ça, bien entendu, il faut connaître les textes, c'est la seule certitude qu'on doit avoir. Pour le reste, c'est un métier passionnant. Et la passion, elle peut être parfois dévastatrice et parfois salutaire. Donc, moi, j'ai une vision assez romantique de mon métier. Depuis 26 ans que je l'ai fait pour... On n'est pas des technocrates, on n'est pas des comptables. Alors, le métier évolue, hein, bien entendu, hein. Heureusement, il faut qu'on garde ce socle de valeurs de notre déontologie, le respect du secret professionnel. On n'est pas des marchands. Notre prestation, elle est intellectuelle. On n'est pas des prestataires de services classiques. On a une prestation de service qui est difficilement quantifiable, quoi.
Est-ce qu'on dort bien toujours quand on ferme un dossier ? Vous m'avez dit que vous n'avez pas eu l'occasion de défendre des tueurs en série ou des criminels de guerre, mais vous avez défendu des gens qui n'étaient pas très honorables.
Oui, j'ai défendu des gens qui avaient violé, qui avaient commis des incestes, j'ai défendu des braqueurs, j'ai aussi été de l'autre côté de la barre, en partie civile, j'ai défendu une mère infanticide. Mais il n'y a pas que le dossier au pénal qui peut vous empêcher de dormir, il y a le dossier civil. Il peut y avoir un enjeu dans un dossier civil aussi grand que dans un dossier pénal. Hein. Le dossier, c'est souvent pour quelqu'un l'affaire de sa vie, hein. Si vous défendez quelqu'un en matière, je ne sais pas moi, de propriété ou de responsabilité, ça peut être, ou de succession, c'est l'affaire de sa vie. Et vous avez un poids, vous avez sur vos épaules l'affaire de sa vie. C'est-à-dire que si vous gagnez, ben, vous êtes le meilleur. Puis si vous perdez, ben, soit ils disent, ben, on a tout fait pour gagner, et puis on a perdu, soit... vous avez, voilà. Donc moi, il m'est arrivé de mal dormir, mais pas forcément pour des gens qui avaient commis des crimes de sang ou des actes de viol absolument abominables. Hein. Ça m'arrive d'avoir des pensées nocturnes, comme disait un confrère, pour tout un tas de choses. Et là, en ce moment, j'en ai des pensées nocturnes, mais pas forcément pour... j'en ai pour l'ensemble de la profession. Et pour ce projet de loi qui ne quitte pas ma table depuis vendredi soir. Voyez, voilà. C'est le poids du bâtonnier, ça, en plus.
Alors justement, le rôle du bâtonnier, que vous êtes élu pour 2 ans, c'est ça. Qu'est-ce que c'est votre mission ?
Oh, la mission du bâtonnier, elle est immense, parce que c'est celui qui préside le Conseil de l'Ordre, c'est celui qui dirige l'Ordre des avocats, avec l'aide de son Conseil de l'Ordre, bien entendu, à qui délègue une certaine partie de ses compétences. Dans le schéma territorial des Français judiciaires, il y a des barreaux. Et à l'intérieur de ce barreau, il y a le président du tribunal de grande instance, il y a le procureur de la République et il y a le bâtonnier. Ou le bâtonnier, le président, enfin, donc, voilà. Et c'est sur ces 3 personnages que repose le système. Donc aujourd'hui, à la place que j'ai, je suis l'une de ces 3 colonnes. C'est un travail qui prend beaucoup. Parce qu'on doit arbitrer, on doit faire, vous voyez, là, je dois arbitrer des conflits, des plaintes ou des remarques entre clients, entre avocats. Je dois arbitrer des taxes honoraires lorsque les gens ne veulent pas payer ou lorsqu'ils contestent le travail. Je dois arbitrer lorsqu'il y a des difficultés et guider les confrères lorsqu'il y a des difficultés économiques. Je dois faire le pont entre le président, le procureur pour gérer, non pas le tribunal, mais pour gérer justement les rapports entre avocats, les audiences, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Je suis aussi l'interlocuteur des hauts magistrats, du premier président de la Cour d'appel, du procureur général. Et en ce moment, on se voit beaucoup. En tout cas, on va être amené à se voir encore davantage. J'ai vu le premier président vendredi matin avec mes autres confrères bâtonniers. Et voilà, le rôle du bâtonnier, c'est à la fois un honneur et une charge. Aujourd'hui, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de responsabilité. C'est une tâche solitaire. Je prends des décisions seul. Parce que c'est ma mission et parce que je même si je délègue et que mon délégué me dit ben là-dessus je sais pas quoi faire, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, ben, je prends le dossier, là, il faut que j'arbitre, voilà, je fais ça sans cesse. Et puis j'ai aussi en charge avec le président de la CARPA des fonds de l'ordre, c'est-à-dire ce qui nous fait vivre. Donc ça aussi c'est une responsabilité budgétaire, hein, donc je dois faire un budget, monter un budget, payer les salariés. Je suis responsable, j'allais dire, comme peut l'être le maire d'une commune, entre guillemets. Le bâtonnier, c'est ça, c'est celui qui dirige l'ordre des avocats. Alors, il y a des petits ordres comme nous, où il y a 50 avocats, et puis il y a des ordres immenses, comme Paris. Alors là, après, il y a un bâtonnier, un vice-bâtonnier, parce que c'est tellement énorme. Hein. Et là, c'est un travail à temps complet. Hein. À Aix aussi, gros travail, en gros c'est 2/3 du temps du confrère, Marseille aussi. Moi ça me prend une journée, en ce moment ça me prend un petit peu plus quand même avec cette réforme qui nous arrive. Mais c'est un travail qui est prenant mais qui est passionnant parce que je, Parce que je dirige l'ordre des avocats, parce que je défends les intérêts de mes confrères, les intérêts de la profession. Je tape du poing sur la table quand ça ne va pas. Quand un confrère mérite une sanction, eh bien, il l'a. Je suis aussi celui qui dirige le conseil de discipline, qui peut amener un confrère devant le conseil régional de discipline, puisqu'aujourd'hui c'est un conseil régional de discipline, et jusqu'à une dizaine d'années, c'était l'ordre des avocats, c'était le bâtonnier qui avait le pouvoir disciplinaire, tout seul. Il décidait, aujourd'hui c'est un conseil régional de discipline, mais ça obéit à des règles strictes, et il n'y a que le bâtonnier qui peut le saisir. Donc là aussi c'est une responsabilité importante. Et j'espère que je ne serai pas confronté à ça pendant mon mandat. Et puis ce qu'il y a de fascinant et de bien, c'est que c'est un mandat de 2 ans qui n'est pas renouvelable. Donc on n'a pas à s'enraciner, on le sait, on peut être bâtonnier plusieurs fois, mais ce n'est pas renouvelable à la suite. Et ça, c'est assez réconfortant parce qu'on se dit, on est là pour 2 ans, on fait le travail, on n'a pas peur de l'élection, de la réélection. Et puis, à partir du 1er janvier à laquelle vous prenez vos fonctions, il faut déjà penser à celui ou à celle qui va vous succéder. Voilà. Mais effectivement, c'est aussi de pouvoir envisager au sein du Conseil de l'Ordre ou des avocats celui ou celle qui pourrait être susceptible de vous succéder. Et ça, c'est pas mal. La transmission aussi. Alors, dans certains barreaux, bien entendu, il y a des élections. Enfin, ici aussi, il y a des élections. Il peut y avoir plusieurs candidats. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir de candidat contre moi, ce qui n'a pas empêché d'avoir une belle élection avec un taux de participation important. Mais c'est arrivé qu'il y ait plusieurs candidats ici. Mais dans les grands barreaux, maintenant, il y a souvent 2-3 candidats. Donc, c'est une compétition politique. Effectivement, tous les rouages qu'on peut voir ailleurs sont aussi en marche. Mais c'est un beau mandat, c'est un mandat vraiment passionnant et que je fais avec beaucoup de passion.
Voilà donc cette interview de Pascal Antique, bâtonnier. Peut-être quelques commentaires, Olivier?
Oui, je fais peut-être un petit commentaire. Alors pas forcément un commentaire de l'interview et de tout ce qu'il nous détaille sur le rôle de l'avocat, qu'il détaille d'ailleurs très très bien, mais notamment sur toute la partie qui concerne le jugement, la phase de jugement, le passage au tribunal et en amont de la condamnation. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'avocat, il le dit, c'est un maillon important de la chaîne judiciaire. Et nous, on va être amenés aussi à rencontrer l'avocat. Mais une fois que la personne a été condamnée, puisqu'on a eu l'occasion de l'évoquer sur les émissions dans le cadre des aménagements de peine, c'est aussi un temps où une décision va être prise, une décision qui concerne la personne, qui est importante, puisqu'elle va soit lui éviter de rentrer en prison dans le cadre d'un aménagement de peine, soit lui permettre de sortir de manière anticipée de la prison. Et ça se passe lors d'un débat qu'on appelle le débat contradictoire, qui est sous la présence du juge d'application des peines, la présence du substitut du procureur, du service pénitentiaire d'insertion et de probation, bien sûr, et de la personne condamnée et de son représentant, qui peut être l'avocat, et qui va être amené là aussi à devoir l'accompagner, le défendre, le soutenir dans cette démarche d'aménagement de peine. Donc on voit bien que l'avocat a aussi une intervention qui se continue après que la condamnation et que le jugement du tribunal ait été acté. Donc ça, c'est une phase qui est aussi importante parce que c'est un regard qui est un regard particulier. Monsieur Antique l'a très bien détaillé dans la manière dont il accompagne la personne détenue, quel que soit l'acte qu'ait commis la personne.
Est-ce qu'on pourrait rajouter quelque chose éventuellement? Il a très bien saisi aussi l'importance, lorsqu'un client va voir un avocat, de ce moment de vie particulier où la vie risque de basculer. Ce que vous disiez, Olivier, à propos de est-ce que je vais aller en prison ou pas, est-ce que ça va me coûter cher ou pas, et est-ce que je peux sauver une partie de mon patrimoine ou de ma vie, et ça a été dit avec beaucoup d'humanité et en même temps beaucoup de simplicité. C'est bien de parler tout simplement, ça a été le rôle de ces émissions, hein, de parler de ces professionnels qui vivent de la justice et dans la justice avec beaucoup de simplicité et en même temps en essayant d'être clair, quoi. Et on a parlé effectivement des gens qui sont parfois indéfendables, mais oui, mais sa mission, c'est de défendre les gens parfois aussi indéfendables, et ça a été bien, bien dit par Maître Antique.
Je vous propose d'écouter l'interview de Philippe Lacroix, donc policier et gardien de la paix, qui a commencé sa carrière en tant que CRS. Voilà, je vous propose d'écouter son point de vue sur l'évolution de la
Philippe
police.
Philippe Lacroix, vous êtes policier et secrétaire départemental des syndicats Unité SGP Police FO, bientôt à la retraite. Vous êtes entré donc dans la police en 1982. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce début de vos fonctions et comment la police a évolué?
gardien de la paix, on était pris en charge complètement, on suivait les anciens à cette époque-là. Il n'y avait pas vraiment de possibilité d'avoir des initiatives. On suivait beaucoup les ordres. Après 1982, du temps de M. Gaston Defer, de M. Jox, on a pu accéder aux enquêtes. On a pu devenir des policiers qui diligentaient des enquêtes. Ça a été une grande réforme parce qu'enfin, on pouvait répondre directement à une plainte par une intervention. On ne répondait pas aux plaintes par une intervention précédemment. On ne faisait que transmettre à des services du style de ce qu'on appelait à l'époque les inspecteurs de police, qui, eux, diligentaient l'enquête. Mais pour une plainte simple de vol de véhicule, on ne pouvait pas aller immédiatement enquêter à cette époque-là. Donc on a eu un statut d'agent de police judiciaire à l'article 20 qui nous permettait de répondre correctement aux plaignants, à la victime. C'était quelque chose de relativement intéressant pour nous. Ça a été une très grande réforme. Il a fallu former beaucoup de gens à la procédure pénale puisqu'on n'avait pas accès à la procédure pénale avant cette époque-là. On répondait aux ordres, on faisait de la patrouille, on était tout le temps chapeauté. À l'heure actuelle, nous avons beaucoup plus d'initiatives possibles.
Voilà. Depuis combien d'années?
Si je ne me trompe pas, j'étais à PJ 20 en 1988, depuis les années 88. APJ 20, agent de police judiciaire. Article 20 du Code de procédure pénale. De la même façon qu'il y a les OPJ à l'article 16, qui maintenant font vraiment des enquêtes, même en commission rogatoire. Et on peut être gardien de la paix et OPJ actuellement.
Et vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez commencé comme CRS. Combien d'années?
J'ai fait presque 10 ans de CRS, de maintien de l'ordre. Alors là, c'était vraiment quelque chose de particulier. On attend les ordres. C'était une époque où on attendait les ordres. J'ai fait un an ou deux ans CRS autoroutier, où là, on faisait de la sécurité sur les autoroutes et pour la prévention des accidents, le contrôle et le traitement des accidents.
Quelle est la mission du policier, en fait?
Principalement, c'est police secours, c'est répondre aux appels du 17. La mission du gardien de la paix, c'est sa première mission et pour moi la mission la plus importante. Le gardien de la paix dans la rue qui patrouille, qui répond aux appels d'urgence, c'est la mission principale de la police. C'est le premier secours qu'on peut avoir à l'heure actuelle.
Vous intervenez quand il y a litige, danger d'un particulier, de groupe?
Les différents familiaux, les cambriolages, tout ce qu'on peut nous signaler comme délinquance, malveillance, crime, délit, c'est vraiment la première réponse de la police. Les bleus qui sont souvent décriés, mais ô combien importants dans la vie de la police. Il n'y aurait pas d'enquête s'il n'y avait pas vraiment la police dans la rue. Alors, on intervient en groupe, nous intervenons en patrouille, et en fonction des villes, on est ou deux ou trois à intervenir. Après, on peut être plusieurs équipages, parfois, dans les très grandes villes, dans les petites villes, on répond comme on peut, en fonction des effectifs que nous avons, parce qu'il y a très peu d'effectifs dans la police. Je me permettrai de dire que c'est M. Sarkozy qui nous a mis dans cet état-là, en supprimant des milliers de postes dans la police. Donc on a, pour beaucoup d'entre nous, plusieurs casquettes. À un moment, j'avais 5 casquettes différentes, 5 rôles différents. Je pouvais autant faire de la police secours que le budget, que des services d'ordre sur des petites manifestations. Là, je parle uniquement de Digne. On n'est pas forcément spécialisé, même si on a des spécialités sur des grandes villes, puisque j'ai travaillé sur Marseille pour la majeure partie de ma carrière. On avait des spécialités, on ne traitait que certains types d'affaires. J'ai travaillé dans des services spécialisés, comme les stupes, comme la brigade des mineurs, comme les permanences centrales de nuit. Là, on n'a qu'un seul rôle. Sur des villes comme Digne, on peut avoir 3, 4, 5 rôles différents. Actuellement, j'ai l'impression qu'on ne fait plus du tout confiance à la police. Et surtout au niveau de la justice, qui, elle, a besoin d'images, a besoin de preuves, et on nous met souvent en cause dans toutes nos interventions. Avant même d'avoir tous les tenants et les aboutissants, on est toujours les fautifs.
Qu'est-ce qui se passe quand vous faites, par exemple, vous procédez à une arrestation au niveau justice, justement?
Le traitement de l'affaire, c'est souvent, ils ont les mêmes problèmes que nous, les mêmes problèmes d'effectifs, les mêmes problèmes de surcharge de travail. Donc certaines choses ne sont pas faites vraiment dans l'immédiat parce qu'il faut arriver à trouver la bonne solution, il faut arriver à trouver la facilité dans la procédure. Nous sommes souvent surpris, même si on n'a pas le droit de les juger et de donner notre avis là-dessus, de la réponse pénale qui peut être faite à certaines personnes, qu'on laissera en liberté alors que elle devrait être incarcérée. Ces gens-là pourront recommencer immédiatement leur délit ou parfois leur crime. Ils sont très rarement incarcérés. La grosse partie des infractions commises, il y a des remises en liberté qui sont ou immédiates ou très rapides.
Quel sentiment vous avez justement par rapport à ça? Quand vous arrêtez quelqu'un, peu de temps après il est relâché, vous l'arrêtez à nouveau, comment ça se passe?
J'ai fait plusieurs années à la brigade des stupes sur la région PACA, puisqu'à un moment j'étais en sûreté départementale et on travaillait sur la totalité de la région PACA, et parfois plus loin quand les enquêtes nécessitaient notre déplacement. Sur ce genre d'infraction, c'est un puits sans fond. Il faudrait multiplier par 100 ou par 200 pour arrêter tout le monde. On n'aurait pas assez de place dans les prisons. Et on tourne en rond et on arrêtait les personnes qu'on revoyait, qui n'étaient pas encore jugées, qu'on revoyait sur d'autres trafics. La réponse pénale, pour nous, elle nous gêne. Après, c'est la réponse pénale, c'est plus notre problème, en théorie. En pratique, sur un trafic de stupes, c'est dangereux chez les trafiquants de stupes parce qu'ils règlent leur compte entre eux. Je dirais que c'est presque pas trop gênant quand ils sont dehors, on les connaît, on les a identifiés, on les surveille plus facilement. La réponse pénale, quand il n'y a pas d'incarcération sur d'autres faits comme l'escroquerie des vieilles personnes, les agressions de personnes vulnérables, où là la personne se retrouve libre juste après avoir été entendue et convoquée pour un jugement futur, où la personne se présentera ou elle ne se présentera pas, on ne sait pas. Ça, c'est plus gênant parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas répondu correctement à la victime. Le problème étant vraiment la réponse à la victime, qui finit par ne plus venir déposer plainte. Nous avons certains cas à Digne, nous avons un cas d'une personne qui n'est pas allée déposer plainte parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Et cette personne est agressée chez elle, c'est une personne vulnérable, d'un grand âge. On a entendu l'auteur, on a identifié l'auteur, on a entendu l'auteur. Pour nous, l'enquête était... une réussite, je dirais. La réponse pénale est nulle, parce qu'il peut recommencer demain ou après-demain.
Donc cette personne est libre et pas sous surveillance?
Elle est libre et absolument pas sous surveillance. Avec aucune interdiction de fréquenter une zone. Elle peut tout à fait, demain, agresser la même personne dans les mêmes conditions.
Ça vous décourage pour d'autres interventions?
Découragé, non. Je pense que les policiers, à l'heure actuelle, ils sont moralement atteints, mais ils ne sont pas découragés, parce qu'on répond toujours. Même si, en colère, entre nous, on est capable de dire « eh ben on ne sort plus, eh ben on ne fera plus rien », des choses comme ça. Devant une agression, devant la victime, on ne réagit jamais de cette façon-là. On essaye toujours de répondre présent, on essaye toujours d'aller sur le terrain pour trouver l'auteur. Parfois, ça marche bien, et des fois, on est étonné de notre... inventivité, je dirais, pour arriver à récupérer l'auteur des faits. On le fait toujours. On continue à être, je dirais, motivé pour... C'est un sacerdoce, la police. C'est quelque chose de... Quand je suis rentré dans la police, moi, j'avais pas vraiment la foi. Je faisais ça parce que je visais une spécialité des CRS, qui était les CRS de montagne. Quelques temps après, même en étant CRS, j'ai très vite compris ce qu'était la foi dans ce métier et le bonheur qu'on pouvait y trouver. Malheureusement, on y trouve de plus en plus de peine à l'heure actuelle, de plus en plus de cas où on est déçu de la suite. Pas forcément dans notre travail. Les policiers restent quand même vigilants et réactifs sur toutes les actions qu'ils font.
Qu'est-ce que vous pensez des prisons sans barreaux, enfin justement des bracelets électroniques, des surveillances, ceux qui sont en milieu ouvert?
Il faut vraiment différencier les peines de prison. Pour quelqu'un qui va conduire en état d'ivresse une fois, pour un chef d'entreprise qui va se retrouver à la sortie d'un repas d'affaires, je dirais, qui va se retrouver en état d'ivresse, il risque la prison. Peut-être que pour ces gens-là, on peut trouver d'autres solutions. Il y en a d'autres, la prison est nécessaire. Mais pour moi, pas dans la forme où elle est actuellement. La forme actuelle... On prend ces gens qui sont complètement opposés à notre société, qui intègrent une autre société. En prison, il n'y a plus de loi. Il y a un règlement, et puis le règlement, eh bien, on le détourne ou on s'en sert. La prison, vraiment, pour les auteurs de crimes et délits, ils ne la craignent plus. Ils sont ensemble. Moi, je prône pour des peines beaucoup plus courtes, mais beaucoup plus sévères, mais avec essentiellement des gens qui soient séparés des autres. puisqu'on les retire de la société, pourquoi les mettre dans une autre société, pourquoi les mettre dans un autre système qu'ils valident où ils sont bien, ils se retrouvent bien dans leur système. Ceux qui se retrouvent mal, c'est ceux qui devraient avoir des prisons sans barreaux et des contrôles plus sérieux. On retrouve toutes sortes de personnes en prison qui deviennent des victimes, qui deviennent des gens opposés à la société, juste parce que la société les a mis en prison et les a cassés complètement. Ce n'est pas des gens qui auraient dû finir en prison. C'est des gens qui auraient dû être suivis. Parfois, on met un mouton parmi les loups et c'est quelque chose de catastrophique.
Voilà, donc l'interview de M. Philippe Lacroix. Alors, bien sûr, ça va entraîner des réactions. Il dit quand même la police fait au mieux son travail et souvent est déçue des réponses pénales. Et les victimes n'osent plus porter plainte parce qu'elles ont l'impression de ne pas être entendues. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça ?
Peut-être avant de répondre directement à la question, un commentaire d'ordre général. D'abord, rappeler que la police fait un travail qui est effectivement compliqué dans notre société, qui se situe à deux niveaux. Dans l'interview, on parle beaucoup de l'intervention directe de la police, mais il faut rappeler que la police est aussi sollicitée dans le cadre des enquêtes en amont d'une décision judiciaire. Donc ça rejoint tout le traitement qui est fait pendant cette enquête des personnes. Je voudrais reprendre un élément qu'il cite. Il dit on n'est pas satisfait de la réponse pénale parce qu'on voit les gens qu'on arrête se retrouver le soir dans la rue. Effectivement, mais quand ils se retrouvent le soir dans la rue, on ne sait pas, et la police ne sait pas forcément, le travail judiciaire qui s'est mis en place et le suivi et l'accompagnement de cette personne pendant ce travail judiciaire. Donc il y a tout un tas de procédures qui existent, de suivi des personnes qui ne sont pas l'incarcération directe. Et on voit bien que dans l'interview, d'ailleurs, à un moment donné, quand on lui pose la question de la prison et de la réponse qu'il faudrait avoir, lui-même nous répond que la prison n'est pas la solution à tout et doit se situer dans des cadres et dans des orientations différentes et adaptées aux personnes. Je crois que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que quand une personne est arrêtée et qu'elle va commencer à rentrer dans le processus de prison, en charge judiciaire, la question de la personnalité et de la situation de la personne et de sa dangerosité, bien évidemment, mais ça, c'est des choses qui ont déjà été dites dans les émissions précédentes et notamment, je pense, par monsieur le procureur et monsieur le président du tribunal de grande instance. On va prendre en compte, bien sûr, la personnalité et aussi sa dangerosité. Et c'est ce qui va faire et ce qui va amener à ce qu'on va organiser la réponse judiciaire immédiate, incarcération ou pas, en fonction du profil de la personne. Donc ça, c'est le premier point. Je veux dire, quand la personne se retrouve dans la rue le soir, il ne se passe pas rien, il ne s'est pas rien passé et la justice est en mouvement. La personne est suivie, la personne est contrôlée. Si elle ne répond pas à ses contrôles, à ce moment-là, l'incarcération peut être la solution dans un deuxième temps, si effectivement ça ne correspond pas. Ça, c'est peut-être un premier point. Alors, moi, après, il ne m'appartient pas de commenter une réponse pénale. La réponse pénale, on l'a vu, c'est très compliqué. On a eu l'interview de Monsieur le bâtonnier précédemment qui nous a aussi bien éclairé sur cette question de la réponse pénale et du traitement de la chaîne judiciaire et donc de la condamnation qui va être prononcée vis-à-vis de la personne. Donc cette réponse pénale, elle s'organise et elle se met en place suite à une enquête qui sera d'ailleurs alimentée par les services de police, ça il faut le rappeler, mais aussi par des éclairages de l'avocat, du procureur, des parties civiles, on l'a cité aussi, si effectivement il y a des parties civiles mises en cause. Donc des affaires ne peuvent pas toutes être traitées dans l'immédiat avec une réponse pénale directe. Il y a des affaires, on va pouvoir, on le sait, ça s'appelle la comparution immédiate, on va traiter, on va donner, on va mettre la réponse en place et la réponse judiciaire directe. Et puis il y a des affaires qui vont nécessiter de travailler dans le temps, de s'inscrire dans le temps avec des personnes dont l'incarcération ne se nécessite pas forcément. Un contrôle, un suivi, oui, mais une incarcération, c'est pas obligatoirement nécessaire en fonction du profil de la personne. Il le dit d'ailleurs lui-même, on aurait pas assez de place en prison et il n'y a pas lieu de créer des places pour chaque personne qui serait mise en cause dans une affaire judiciaire. Donc ça, c'est le premier élément qui, moi, me fait réagir. C'est-à-dire qu'on l'a dit, la mise en œuvre de la justice est une mise en œuvre compliquée qui nécessite de prendre en compte à la fois tout un tas d'éléments factuels, mais aussi des éléments de personnalité, des éléments humains. Chacun l'a pu le dire, hein. On travaille avec de l'humain, c'est complexe et cette complexité nécessite de ne pas être dans des réponses qui parfois sont des réponses. Je crois que je l'évoquais dans mon interview initiale de la mise en œuvre des différentes émissions que nous allions faire ensemble, qui est celle de la représentation qu'on peut avoir effectivement. Je l'arrête, le soir il est dans la rue, donc il ne s'est rien passé. C'est pas vrai, on l'a dit, il se passe quelque chose. Et il s'est passé quelque chose, et quelque chose auquel contribuent d'ailleurs les services de police. Ils ne sont pas en dehors de ces choses-là. Par contre, de leur place, mais comme de la place du SPIP, on n'a pas forcément toutes les informations quand l'enquête est en cours, parce que l'enquête est soumise au secret judiciaire, un certain nombre de protections qui protègent à la fois la victime et qui protègent aussi la personne qui est mise en cause dans cette affaire.
Merci. Julien Vimy, vous voulez rajouter quelque chose ?
Tout d'abord, je souhaiterais constater un petit peu la carrière de Monsieur Lacroix. C'est vraiment un témoignage de foi dans son métier. Et en même temps, je partage un petit peu sa peine avec ses collègues par rapport aux conditions de travail. Et pour ça, vraiment, ils font un travail exceptionnel. Cette interview représente vraiment l'image que peuvent avoir les Français par rapport à la justice. C'est-à-dire des temps d'enquête qui sont relativement longs, une réponse pénale qui peut ne pas être appropriée, selon cette interview. Mais malheureusement, que je ne partage pas. Pourquoi ? Parce que cette interview est vraiment pétrie de logique punitive. C'est-à-dire que la peine, pour nous, ne sert pas forcément en tant que répression, en tant que punition, mais en tant que réhabilitation. Et là, de ce qu'on entend au niveau de cette interview de M. Lacroix, c'est vraiment, comme disait M. Villès, on l'arrête, incarcération. Cette logique n'est pas forcément la bonne, puisque déjà, d'une part, je vais parler d'un point de vue comptable, une journée de prison, c'est 100 euros. Actuellement, on a à peu près 70 000 personnes d'incarcérées. Vous faites le calcul, multiplié par 365 jours par an, ça fait un coût pour la société. Un bracelet électronique, on est entre 10 et 30 euros par jour. Donc là, on voit un petit peu déjà le rapport. Ensuite, il y a aussi une différenciation. Il parle d'un chef d'entreprise qui est arrêté pour aller en état d'alcoolémie et dit, lui, la prison n'est pas forcément nécessaire. Alors de faire ce type de différenciation, c'est dangereux, puisque la personne elle-même ne va pas prendre conscience des actes qu'aurait pu avoir sa conduite déviante, c'est-à-dire renverser quelqu'un. Alors oui, sur le coup, il a été arrêté, on a prévenu un risque plus grand, mais le risque était quand même présent. Et ce type de différenciation, on peut le retrouver après en prison, par exemple. Bah, lui, il a pris autant, moi j'ai pris plus, parce que, bah, je sais pas, il y a quelque chose, soit c'est ma tête qui revient pas, ou quoi que ce soit. Et de faire ce type de différenciation, c'est dangereux, parce que les personnes ne prennent pas conscience des actes qu'elles commettent. Ensuite, quand il parle de réponse pénale qui peut déranger, on parlait de suivi justice, on est amené, nous, à suivre des personnes en contrôle judiciaire. Alors effectivement, la personne a commis un acte, il y a le temps d'enquête, d'instruction, ça peut prendre quelques mois ou quelques années. Donc dans ces cas-là, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on les a en contrôle judiciaire. Ils ont des obligations, s'ils ne respectent pas les obligations, c'est présentation devant le juge ou le magistrat mandant, et ça peut se terminer en incarcération. Et je tenais aussi à terminer, la détention provisoire, elle est exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on doit d'abord envisager toutes les autres mesures, c'est-à-dire le contrôle judiciaire ou le bracelet électronique avant jugement, et seulement après la détention provisoire. Il faut garder cette logique, puisque actuellement, les maisons d'arrêt, les établissements pénitentiaires sont en surpopulation, et on ne peut pas avoir un travail, on va dire, effectif. Monsieur Lacroix soulevait quelque chose de très important quand il dit que certaines personnes qui ont déjà été condamnées, qui ont connu la prison, reviennent en prison et connaissent leur petit système. On ne va pas dire que c'est faux. C'est vrai.
Oui, c'était par rapport aux grands truands qui ne craignent plus la prison, qui se retrouvent, j'ai coupé certains passages parce que c'était trop long, mais il disait bien que les grands truands se retrouvent ensemble encore en prison et le prennent avec presque humour. Il y en a un qui disait, j'étais le seul dehors, j'aurais été tout seul pour passer les fêtes. Enfin voilà, il y a un peu ce jeu et il était un peu contre que ces personnes soient ensemble encore dans la prison.
Oui. Sur cette question-là, sur la question de la prison, il y a effectivement plusieurs modalités aussi d'incarcération. C'est-à-dire que de dire que parce qu'on est en prison, ils vont être ensemble, ceux qui se connaissent, ceux qui font des affaires déjà à l'extérieur ensemble. Donc là, je vais tout de suite m'inscrire en faux. Parce qu'en prison, il y a un régime qui s'appelle le régime de l'isolement ou le régime de la séparation des personnes. Et l'administration pénitentiaire, pour des personnes mises en cause dans une même affaire, ne va pas les incarcérer dans les mêmes lieux de détention ou va mettre des personnes, quand elles sont avant jugement, dans ce qu'on appelle une situation d'isolement pour qu'il n'y ait pas de contact justement avec les autres détenus. Donc ça, il faut le rappeler, c'est-à-dire qu'il y a des conditions d'incarcération qui sont différenciées aussi en fonction des personnes, en fonction des crimes commis, des délits commis, des connaissances. Et l'administration pénitentiaire gère toutes ces situations-là pour justement ne pas mettre deux personnes qui gèrent un réseau à l'extérieur et qui sont les dirigeants de ce réseau au même endroit, au même moment, pour qu'éventuellement ils puissent, à partir de la prison, s'y faire se peut, ce qui est quand même aussi un peu plus complexe que quand on est à l'extérieur, de pouvoir continuer, comme il peut le dire, son trafic ou ne pas se sentir dans une situation un petit peu complexe qui est celle de la privation de liberté. Ensuite, un deuxième point, je crois que dans son interview, il dit aussi qu'il n'y a pas de loi en prison. Moi, je rentre quasiment tous les jours de la semaine dans un établissement pénitentiaire. Je ne vois pas quel chef d'établissement aujourd'hui ou quel magistrat pourrait dire il n'y a pas de loi en prison. Il y a des lois et les mêmes lois que celles qui sont à l'extérieur, qui s'appliquent à l'intérieur de la prison. La représentation qu'on peut avoir là aussi, on est sur une représentation et je pense qu'un certain nombre de feuilletons télévisés contribuent à cette représentation qui est celle de la prison. Tout se remet en place comme à l'extérieur. L'administration pénitentiaire ne gérerait rien dans ces établissements, il n'y aurait plus de loi, la loi serait celle uniquement des personnes détenues. Il faut redevenir un tout petit peu sérieux sur ces images-là, de dire qu'il peut y avoir, M. Vimy le disait, effectivement du trafic en détention, ça arrive, on le voit toutes les affaires, les téléphones portables rentrent en détention, mais à chaque fois que les personnes sont prises, elles vont être jugées, condamnées pour des délits, qui sont des délits aussi qui existent à l'extérieur. Donc je ne peut pas laisser dire qu'il n'y a pas de loi et que la loi ne s'appliquerait pas en détention. Elle s'applique au quotidien.
Pour compléter ce que disait M. Villès, pour faire aussi le lien avec M. Maître Antique, en prison, il y a des commissions de discipline lorsqu'il y a des infractions au règlement intérieur. Et ça peut aller à du sursis jusqu'à du cachot, donc ce qu'on appelle donc le quartier disciplinaire. Mmh. On dit le cachot parce que c'est plus simple pour tout le monde. Par rapport à ça, au quartier disciplinaire, les avocats sont présents pour défendre les droits de la personne. Donc quand on entend M. Lacroix qui dit qu'il n'y a pas de loi, juste un règlement intérieur, c'est pas vrai, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça.
Moi, j'aurais quelques remarques rapides parce que le temps en passe. Simplement rappeler que le côté bravache des truands en prison, on le connaît. Et effectivement, il y a toute une littérature cinématographique qui s'est faite là-dessus. Les caïds et les systèmes pénitentiaires, etc., etc. Donc ça ne m'étonne pas trop. Moi, ce que je remarque dans cette interview, c'est le côté vocation de cette personne qui, Monsieur Lacroix, qui a travaillé pendant 30 ans et qui croit en son métier. C'est important, vous l'avez déjà dit. En même temps, il y a des manières de le faire évoluer. Ce métier. Je pense notamment quand ils se font agresser par des personnes qui viennent secourir avec leurs amis les pompiers par exemple. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal non plus que les policiers ne soient pas attentifs lorsqu'une femme vient déposer plainte pour agression sexuelle. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là. C'est pas la seule profession hein, qui est dans ce cadre-là. Les enseignants sont aussi visés. Les employés de mairie ou toutes les personnes, ne serait-ce que les voisins d'une personne qui est tabassée le soir par son mari, eh bien on a un rôle à jouer en tant que citoyen, et à plus forte raison quand on est un représentant de l'ordre. Et c'est pour ça que je voulais le dire, ce qui n'enlève pas au travail et à la qualité du travail en majeure partie de la police, mais il faut évoluer et surtout que la loi va établir ce délit de harcèlement sexuel dans la rue, et donc là il va falloir ouvrir grand les oreilles et faire preuve aussi de fermeté quelque part, peut-être de répression aussi quelque part.
Je vous propose de terminer cette émission avec le témoignage de Olivier, surveillant à la maison d'arrêt de Digne. Et on va pouvoir voir qu'à la maison d'arrêt de Digne, c'est quand même plutôt tranquille. On va l'écouter tout
Olivier,
de suite.
Olivier, vous êtes surveillant brigadier à la maison d'arrêt de Digne. Ça fait longtemps que vous êtes rentré dans cette profession?
Oui, maintenant, ça fait donc 19 ans que je suis surveillant brigadier à la maison d'arrêt de Digne. Mais avant, j'ai exercé pendant 7 ans au centre pénitentiaire d'Eton, en Savoie. Donc une maison d'arrêt assez grosse par rapport à cette petite prison de Digne. Et avant, j'étais en Alsace, dans une maison centrale. Et donc j'ai commencé ma carrière, j'avais 20 ans. Ça fait 30 ans maintenant. Donc on peut dire que je connais un peu le système.
Qu'est-ce qui fait que vous êtes engagé dans cette profession qui n'est peut-être pas simple? On va voir ensemble les qualités qu'il faut pour être surveillant. Surveillant brigadier, c'est un grade?
Oui, c'est une petite distinction au bout d'un certain nombre d'années. C'est une petite distinction. Dans les gros établissements, on peut avoir des postes à responsabilité, mais là, à la maison d'arrêt de Digne, mes collègues surveillants et moi, surveillant brigadier, on fait exactement le même travail. C'est une petite distinction, mais on est dans la catégorie des surveillants.
Vous avez commencé à prison centrale, qu'est-ce que ça veut dire?
Une maison centrale, c'est une prison qui accueille des détenus condamnés définitivement à des longues peines, voire des peines à perpétuité. Donc des cas très difficiles à gérer. Et quand on a 20 ans, c'est pas évident. Mais je dirais que c'est un métier, il faut être humain, il faut connaître les gens. On ne fait pas ce métier, c'est pas une vocation au début. Hein. On ne fait pas ce métier par vocation. On a 20 ans, on sort de l'école, après le service militaire où j'ai fait un an de gendarmerie. Et puis, on est attiré tout au début par la sécurité de l'emploi. À 20 ans, en 89, on nous annonce des salaires qui étaient plutôt pas si mal que ça par rapport au coût de la vie dans les années 90. Donc on s'engage, on passe le concours, on s'engage, et puis voilà, les années passent et on reste. Et puis finalement, c'est un métier, on est fonctionnaire, on a la sécurité de l'emploi, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas tous les jours facile, c'est un métier qui est quand même difficile, que je conseillerais peut-être pas à mes enfants maintenant en 2018. Mais bon, moi j'ai l'impression que j'ai fait ma petite place, j'ai fait ma petite vie là-dedans assez facilement.
À 20 ans, donc, se retrouver dans une maison centrale, donc avec des cas, certainement des personnes plus ou moins dangereuses, on peut dire ça. Est-ce que vous avez vécu vous-même des agressions ou comment vous êtes préparé à 20 ans?
Alors, personnellement, je touche du bois, je n'ai vécu aucune agression physique en 30 années de carrière. Alors à 20 ans, comment on se prépare? Je dirais qu'à l'époque, c'est pas l'école de l'administration qui nous a préparés, parce qu'à l'époque, on avait 2 mois d'école et 2 mois de stage dans un établissement pour nous préparer au métier. Alors c'est un métier, ça s'apprend sur le tas, c'est avec l'expérience. Il faut connaître les gens, mais c'est pas du tout, il n'y a pas une école. On peut pas dire qu'à l'époque, je parle bien dans les années 90, maintenant ça a changé, il y a 8 mois d'école à Jeun. Il y a plus de pratiques de sport, il y a plus de self-défense, de cours de secourisme. Mais nous, à l'époque, en 90, c'était, il fallait recruter, il y avait des nouvelles prisons qui s'ouvraient, il fallait recruter, ils ont recruté en masse, et c'était, enfin, pour moi, personnellement, c'est pas l'école d'administration qui m'a appris le boulot. C'est sur le tas. Après, on est arrivé, on avait tous le même âge, tous des jeunes surveillants, et les anciens nous ont expliqué ce qu'il fallait faire. Et puis ça s'est plutôt bien passé, où je suis passé, dans les établissements où je suis passé.
Est-ce que ça affine votre perception par rapport à quand vous voyez quelqu'un, vous arrivez à deviner un peu qui il est, sa psychologie?
Ah oui, à force, on commence à connaître. C'est pour ça que je dis que c'est un métier qui est humain, parce qu'il faut cerner les gens tout de suite. Il faut connaître les gens, il faut savoir ce qu'ils ont fait pour être incarcérés. Ça, maintenant, avec les réseaux sociaux, les médias, on le sait. Il ne faut pas nous faire croire qu'on sait exactement pourquoi ils sont là. Vous voyez, il faut connaître les gens. Mais à la maison d'arrêt de Digne, on arrive bien à connaître les gens, parce que c'est une toute petite structure avec nos 35-40 pensionnaires. Mais moi, je parle de la maison d'arrêt de Digne. Je suis clair, je ne ferai pas ce métier au Beaumet, à Aix-Luynes, où il y a 150 ou 120 détenus pour un agent. Je ne comprends pas d'ailleurs comment c'est possible. Moi, je parle de la maison d'arrêt de Digne et de mon cas en particulier.
Alors justement, dans cette petite maison d'arrêt où c'est une ambiance plutôt, on va pas dire familiale, mais en tout cas petite structure, est-ce que les rapports amicaux entre détenus et surveillants, ça existe? Et comment ça se passe au niveau des liens qu'on peut créer?
On peut pas dire qu'il y a de relations amicales, déjà on ne doit pas. Mais il y a quelque chose à la maison d'arrêt d'Inde qui peut choquer les autres agents dans d'autres établissements. Le matin, on serre la main aux détenus. Ça ne se voit pas ailleurs. Pour dire bonjour, on serre la main aux détenus. Ça s'arrête là. Après, on discute beaucoup avec les détenus. On discute de ce qui se passe à la télé, de sport, de la vie extérieure. Mais on ne peut pas parler de relations amicales. Je ne revois pas de détenus dehors. Mais quand on est à l'intérieur de cette maison d'arrêt, on vit avec eux. Donc, pendant 6 heures, on est avec eux, on vit avec eux. Et autant, il faut que ça se passe le mieux possible.
Et comment ça se passe justement pour une vie familiale, en dehors de la prison évidemment? Est-ce que ça a un impact sur votre vie personnelle?
Oui, tout à fait, puisque on travaille quand même au niveau du service. On travaille quand même 2 week-ends sur 4. On travaille à Noël, on travaille à Pâques. Forcément, pour la vie familiale, c'est pas évident. C'est pas évident à gérer. On fait des nuits, 6 à 8 nuits dans le mois. Donc il y a une fatigue, mais on arrive toujours à trouver de la force. Moi, je pense que pour faire ce métier, il faut avoir vraiment une situation familiale stable, ce qui est mon cas. Mais il faut être soutenu par sa famille. Sinon, si déjà au niveau familial on a des problèmes, faut pas rentrer dans la prison, faut pas rentrer dans ce métier avec des problèmes venus de l'extérieur. Parce qu'il y en a déjà pas mal à l'intérieur. Il faut arriver, il faut être neutre. C'est un métier, les conséquences familiales dues au service complètement décalé. Ce service de nuit, ce service de week-end, les enfants à l'école. Là, cette année, par exemple, aucun de mes congés annuels ne correspond aux vacances scolaires de mes enfants.
Quel est l'emploi du temps d'un surveillant pour la journée?
Dans la journée, déjà, on fait ou le matin ou l'après-midi, comme par exemple cet après-midi, de 13h à 19h. Donc à 13h, on arrive, on compte nos détenus, parce que c'est quand même c'est un métier de garde, de surveillance. On s'assure de la présence physique de chaque détenu. Et là, en ouvrant la porte, on demande, ça va, bonjour. Et après, la journée s'enchaîne très vite. Comme là, par exemple, cet après-midi, il y a l'école, il y a des cours de français, il y a le professeur du chantier école qui est là avec 5 gars pour des petites réfections de locaux, des petits travaux à l'intérieur de la prison. Il y a le dentiste cet après-midi qui va arriver pour voir 5-6 gars. Il y a l'infirmière. On est tout le temps en mouvement, on est tout le temps en train d'ouvrir des portes et de fermer des portes. Et donc, les détenus, le détenu ne reste pas 24 heures sur 24 dans sa cellule. Et puis il y a la promenade, il y a des cours de sport, ça bouge, une prison ça bouge. On n'est pas assis sur une chaise à attendre que ça se passe. C'est pour ça que la journée peut passer vite.
Donc après 30 ans de carrière, vous êtes toujours aussi motivé. Comment vous vous appréhendez quand vous arrivez ici ?
Ah oui, je suis toujours motivé parce qu'on est à Digne-les-Bains et que c'est tout petit. Que moi, bon, il faut pas se mentir, dans 7 ans je suis en retraite, hein. Donc à 57 ans on peut commencer à partir en retraite. Donc quand on voit le chemin parcouru et ce qui reste à faire, c'est ce qui motive aussi. Et puis après, il faut avoir la tête sur les épaules. Bon, dehors, moi je fais beaucoup de sport, beaucoup d'activités physiques, donc c'est ça qui aide aussi à la soupape de sécurité. En clair, c'est l'extérieur, c'est mes activités extérieures. Donc quand j'arrive et que je prends mon service à la maison d'arrêt de Digne, j'ai mis le compteur à zéro, je peux repartir pour 6 heures. En gros, je peux tout entendre. Et après, on refera un reset général ce soir à 19h et on reviendra demain après-midi.
À vous entendre, ça paraît un métier presque idéal, alors que vous avez quand même vécu quelques traumatismes, lesquels ?
Oui, donc en fait, j'ai décrit un métier où tout était rose, mais il y a quand même, on a le problème des suicides en prison, où j'ai quand même vu des personnes qui s'étaient pendues. Hein. J'ai décroché 2 gars, quoi. Qui était mort, quoi. Donc on a fait tout pour essayer de sauver la personne. La personne avait été déclarée décédée. Donc ça, quand on voit ça, oui, là, effectivement, c'est pas... Tout devient moins rose, en fait.
Et là, est-ce qu'on se remet en question soi-même par rapport à la détention ?
Non, on voit des psychologues, on essaye de parler, d'en discuter avec des gens, mais... Après, bon, le boulot, il faut faire le boulot. On revient le lendemain et c'est reparti. Hein. Mais heureusement, le taux d'automutilation et de suicide à la maison d'arrêt de Digne, attention, j'en reviens bien, est très très faible par rapport aux autres établissements. Parce que les gars sont suivis. Voilà, j'en reviens toujours à ce côté humain. On arrive à détecter parce qu'on a le temps de pouvoir détecter une situation compliquée avec un détenu. L'infirmerie, elle est là tous les jours. La psychologue, elle est là 2 fois par semaine. On arrive toujours à voir ce qui se passe. Il faut sentir les choses, on le sent. On le sent bien ici parce qu'on a le temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de détenus pour le nombre de surveillants. En fait, les détenus à la maison d'arrêt de Digne, ils sont bien gérés, ils sont bien lotis en fait, et bien gérés par le personnel.
Voilà, on arrive au terme de cette émission et de cette série d'émissions. Alors, très très rapidement, on va faire un petit point sur les émissions passées. Donc, on rappelle, il y a eu sur la première sur les maisons d'arrêt de Digne et de Gap, la seconde sur les réponses pénales avec le procureur et le président du tribunal de grande instance, la troisième sur les aménagements de peine et la quatrième sur le milieu ouvert. Monsieur Julien Vimy, vous étiez présent pour les aménagements de peine. Quel mot de conclusion vous avez à nous donner ?
Déjà, merci beaucoup de nous avoir invités sur votre émission pour présenter notre métier, nos missions. Ça permet aussi de donner une autre facette de l'aspect pénal et aussi des représentations qu'on peut avoir des personnes détenues et des condamnées de manière générale. Ça nous a permis aussi de pouvoir travailler, enfin de présenter le travail de nos confrères et de nos collègues en maison d'arrêt et nos partenaires. Ça aussi, c'est important. Puis j'espère qu'on pourra refaire ce type d'émission à l'avenir.
Merci. Olivier Villès, très rapidement.
D'abord, j'espère que ces émissions auront contribué auprès des auditeurs à pouvoir apporter une meilleure connaissance de ce qu'est le monde de la justice et l'action surtout de l'administration pénitentiaire c'est-à-dire au moment où les personnes sont condamnées, détenues ou libres, mais sont condamnées. Et donc le travail qui se met en place avec ces personnes-là, qui est un travail qui est à la fois, je le redis, centré autour de la question de l'acte et des obligations qu'ils ont à effectuer, mais aussi et beaucoup autour de la logique de réinsertion et de reconstruire, de se reconstruire et de reprendre sa place dans la société et d'éviter, qui est quand même notre principal objectif, au service pénitentiaire d'insertion et de probation, mais aussi globalement au bénéfice de la société, d'éviter la récidive d'un acte qui a été commis une fois. Donc j'espère que ces émissions auront contribué à ça. On voit bien que quand nous avions évoqué le temps et la durée des émissions et le nombre des émissions, mais qu'au bout de 5 émissions, on est dans l'urgence au moment où on conclut et on aura encore plein de choses à dire et plein de choses à découvrir. Ça nous fait découvrir aussi d'autres métiers. Je pense aux policiers, on pourrait faire du temps sur les policiers, mais on voit bien qu'il y a aussi les métiers de la juridiction, des magistrats, des avocats, c'est des choses qui contribuent à la prise en charge. Enfin, je voudrais finir par vous remercier. Je vous ai contacté à un moment donné parce que on fait souvent des coups de phare, des coups de projecteur sur des actions ponctuelles qui sont mises en œuvre et qui, des fois, peuvent donner lieu à des remarques sur « Ah, mais pourquoi on va faire une randonnée avec un détenu ? Pourquoi on va faire une médiation animale ? Pourquoi on va leur amener de la culture en détention ?» J'espère que ces émissions auront contribué à ce qu'on comprenne pourquoi et je voudrais vraiment vous remercier du partenariat dans lequel on a été, remercier Fréquence Mistral de l'engagement qu'elle a eu à nos côtés pour nous permettre de mieux faire connaître nos professions de l'administration pénitentiaire.
Merci. Et puis on rappelle donc que pour 40 détenus, il y a 600 personnes en milieu ouvert et c'est pas rien et vous êtes là aussi pour vous en occuper. François Malabave.
Très très brièvement, rappeler que ça nous a donné l'occasion de rencontrer des gens formidables, aussi bien dans le domaine de la justice que la police, en maison d'arrêt aussi, tous ces gardiens extraordinaires, je pense à André Magnier aussi, à Gap qui fait un travail remarquable. Et puis c'est vrai qu'on a apporté notre pierre nous aussi en termes de communication. On doit aussi en tant que citoyen faire confiance à notre justice, on doit aimer notre justice et on doit la défendre aussi quelque part, et ça a été un petit peu notre rôle. Merci aussi à vous Odile d'avoir contribué à toutes ces émissions et puis il nous manque encore au moins 2 heures, Olivier, pour conclure, mais ce sera une autre fois. Là, pour l'instant, voilà. Il va y avoir RFI.
Exactement. Bon, merci à vous tous et à très bientôt.